Alors justement, on a fait un peu le tour des films qui nous ont marqués, on va parler des films qu'on a oubliés, mais je voulais vous poser la première question. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans Ghibli cette année? Finalement, l'année a commencé avec Le Vent se lève, elle finit avec ce documentaire sur Ghibli, il y a Marnie qui arrive un peu en début d'année 2015, et surtout Le Conte de la Princesse Kaguya, qui était le meilleur film de Cannes, et assez largement avec Winter Seed dans un autre domaine. Donc est-ce que finalement Ghibli ne sauve pas l'année cinématographique, alors à la fois en Asie et puis un peu partout ailleurs, parce que ce sont des films qu'on retrouve dans tous les classements.
Sauver, je sais pas, il y a quand même eu pas mal de bons films. Enfin, moi je trouve que c'était une assez belle année 2014, mais incontestablement Ghibli nous a rappelé que l'animation japonaise compte plus que jamais. Et c'est vrai que aussi bien Takahata que Miyazaki ont été tout sauf des has-been, enfin ils nous ont vraiment montré qu'ils étaient en pleine santé cette année.
C'est juste dommage justement qu'il n'ait pas le succès escompté qui amène justement à la fermeture, partielle du studio. Parce que, même en France, mais dans les autres pays, les deux Ghibli n'ont pas vraiment marché au final. Peut-être un peu plus le Miyazaki.
000, je crois. Ouais.
Ou le Miyazaki, mais le Takahata.
On n'est pas au Chine de Ponyo.
Voilà. La sortie du Takahata était quand même super confidentielle, j'ai trouvé. Mm-hmm. C'est vraiment dommage de ne pas avoir. Puis c'est pas forcément la faute du distributeur d'ailleurs. C'est pas vraiment explicable en fait. C'est juste une espèce de désamour, alors que les deux réalisateurs ont tellement de choses à donner.
C'est possible le fait que ce ne soit pas forcément des films pour enfants. Ils ont été marketés difficilement. Enfin, c'est quand même Disney qui les distribue en France. Les deux peuvent s'adresser à un public à partir de 7-8 ans. Et c'est comme ça que les gens le voient d'ailleurs, le cinéma d'animation, pour 90% des Français, c'est le cinéma pour enfants. Or, ce ne sont pas des films pour enfants, donc c'était un peu dur effectivement d'y aller. Moi, quand j'ai revu Le Vent se lève en salle, il y avait des enfants de 3-4 ans, et c'était un peu dur pour les parents, que j'ai vu en VO, donc qui amenaient leur enfant à voir un film d'animation.
C'est un peu plus compliqué.
Parce que c'est un film d'animation, que c'est un Ghibli, et voilà.
C'est quand même des films qui hypnotisent, hein, tu sais. Hein. J'en parlais avec Sidi avant l'émission. Le conte de la princesse Kaguya, par exemple. Moi, je connais des enfants qui n'ont même pas un an et qui l'ont vu et qui sont très hypnotisés par ça. Hein. Il y a quelque chose. Et tu en as parlé d'ailleurs, Julien, sur la manière de. Enfin, sur le design et tout, c'est, enfin, sur le graphisme, il y a une manière comme ça d'hypnotiser. Mais ces deux films, en tout cas, Le Vent se lève et Le Conte, nous ont rappelé que l'essence même du cinéma, enfin, ce qui a fait que le cinéma est devenu le cinéma, c'est que le cinéma, c'est un art qui a une manière très simple de raconter des histoires.
C'est simple. Mmh. La simplicité.
Très simple de raconter des histoires. Et ça nous renvoie à ça, et ça nous renvoie aussi à l'essence même, je pense, de la notion d'un spectateur qui est la naïveté. Et moi, avec ces deux films, j'ai l'impression de retrouver ma naïveté, que j'avais peut-être perdue ou plus ou moins mis de côté. Enfin, voilà, c'est... Mais je rejoins ce que dit Sidi. Non, effectivement, il y a eu d'autres films, il y a eu pas mal de films intéressants, mais c'est vrai qu'avec surtout avec Le Vent se lève, d'ailleurs, il y a une espèce de retour au classicisme, donc une forme d'élégance.
C'est l'un des films les mieux mis en scène, et paradoxalement, c'est un film d'animation.
Voilà.
Maintenant, l'animation,
ça calme beaucoup.
Et en plus, maintenant, avec l'animation, on peut faire des plans, enfin, exprimer des choses par la mise en scène que tu ne peux pas faire.
Attention, ça, je mets une réserve, parce que justement, j'avais posé une question sur un forum spécialisé maintenant. Mais c'est extrêmement compliqué de faire des plans séquences en film d'animation, d'un point de vue technique. Il y a beaucoup, en fait, tu peux utiliser beaucoup de procédés. Non ? Oui, mais pas d'une durée que tu peux avoir au cinéma, en fait. Et justement, c'est parce qu'il faut des moyens extrêmement importants pour tourner un plan séquence, parce qu'il faut des moyens techniques énormes pour y arriver, quoi.
Mais tu perds forcément quelque chose, mais tu gagnes énormément
oui,
aussi.
Oui, tu gagnes, t'as l'imagination, enfin, le côté animation te donne une certaine liberté, mais en fait, n'arriveras jamais non plus à une technique que le cinéma peut apporter.
Mais le vent se lève, hein, il va quand même à donner une épaisseur humaine à des personnages dessinés. Je me rappelle d'une séquence où les deux amis parlent, et il y en a un qui prend une cigarette. Enfin, je sais pas, j'étais fasciné par un petit détail, quoi. Il ne lui restait plus de cigarette.
Oui, le mot,
voilà, j'avais l'impression d'être face à un mégot.
Je suis attiré à cette séquence.
Et je trouve c'est amené d'une manière extrêmement. Enfin, c'est hypnotique sans être spectaculaire, c'est minimaliste.
On y est, quoi. Voilà, c'est comme si tu étais. C'est-à-dire que la frontière entre l'animation et la réalité, c'est tout d'un coup volatilisé, en fait. Assez évaporé et tué dedans.
Il y a un propos assez intéressant, d'ailleurs, dans le documentaire The Kingdom of Dreams and Madness de Miyazaki, qui explique, enfin justement, il y a tout ce processus qui va arriver au plan final, qui n'était pas du tout écrit comme ça. Les derniers mots, c'était pas ça. Et au bout d'un moment, il soit obligé, en fait, de changer cette fin. Et il dit que les films sont des êtres vivants. Et c'est vrai que ça, on pourrait le penser d'un film avec des acteurs, voilà, où il peut y avoir des choses qui se créent, ou des éléments du réel peuvent perturber la narration qui était pensée. Et c'est très intéressant qu'il dise ça d'un film d'animation, finalement. Mmh. Le film devient un être vivant, a son caractère propre, les personnages existent par eux-mêmes, et c'est pas Miyazaki, enfin c'est la fin du film qui vient à Miyazaki, plutôt que lui qui l'écrit et qui pourrait être dans un cadre très rationnel, très animé.
Juste, je voudrais rebondir, en fait, pour avoir une vision un petit peu plus pessimiste, en fait, sur le futur de l'animation japonaise. Pour moi, 2014, ça a été une année testamentaire, en fait. Parce que Ghibli, en tout cas, et sans doute pour l'animation japonaise en général.
Je suis pas fini. Vas-y, continue.
Pour Le Vent se lève, c'est le dernier film de Miyazaki. Probablement, il reviendra peut-être un jour. Pour l'instant, il va écrire des mangas. Il a eu un gros succès au Japon, ça c'est très important parce que le succès de Ghibli est corrélé au succès dans le pays d'origine, donc le Japon. Il a un énorme succès parce qu'il a aussi annoncé sa retraite lors du festival de Venise, et c'était aussi Miyazaki, donc son dernier film, donc il a été je crois dans le top 10 du box-office japonais, ce qui est assez classique pour un film d'animation là-bas. Le Takahata, ben, c'est sans doute son dernier film vu le temps qu'il met pour préparer, pour faire un film, et justement je te conseille Les Voisins des Yamada si tu l'as pas vu.
Qui est
génial, qui a été un gros bide malheureusement au Japon, et c'est aussi l'une des raisons pourquoi il a été si mal distribué dans les pays autres que le Japon.
Et pourtant c'était à la mode en 99, voilà. Le cinéma d'animation était à son pic en France.
Tout à fait, mais je sais pas, tout le monde bloque sur le Miyazaki et son univers un petit peu enfantin, à part le Vent se lève, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déguisées derrière, qui s'adressent à un public au premier degré au niveau des enfants, et au second degré pour les adultes, et ce qui nous plaît énormément.
D'ailleurs, le dénigre Porco Rosso limite dans le.
Voilà, mais dénigre, c'est une belle critique de la guerre, mais les enfants ne le voient pas forcément.
Qu'il était un peu imbécile à vouloir faire ce film, qui est pas du tout. En fait, ouais, ça parle vraiment de trucs très adultes.
Mais oui, mais c'est pas. Les enfants ne le voient pas, en fait. On voit une autre histoire, et nous aussi. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Et j'aimerais citer, en fait, un troisième film qui est L'île de Giovanni, par un réalisateur assez méconnu, puisqu'il vient de la série d'animation. Qui est un habitué des contes de récits historiques, qui était aussi une belle surprise pour cette année. Et en fait, on se dit, finalement, cette année, on a vu presque le meilleur de l'animation japonaise, et quand est-ce qu'on va le revoir? Alors, évidemment, il y a Shinkai, il y a Osoda, ça c'est la nouvelle vague. Ils viendront en 2016. En 2015, il y aura Souvenir de Mardi, par le réalisateur d'Arietti, qui a fait un bide monumental au Japon, qui s'annonce pas génial. Il y a le Gorō Miyazaki qui va aller dans les séries d'animation.
Il est pas si mal,
mais sans être exceptionnel. Il va pas être dans le top 10 de Estasia en 2015.
Ah, il passe après du lourd.
Il est en fin de vie, et le Gorō Miyazaki, c'est le fils, il est dans les séries, il reviendra jamais. Donc on peut présupposer facilement que Ghibli, en fait, ne refera sans doute jamais sur Vase, ou en tout cas pas à très court terme. Et il ne reste plus que deux réalisateurs, Osoda et Shinkai. Shinkai avec son propre univers qui est en train de tourner des pubs. Donc on ne sait jamais trop combien de temps il va dans un film, sachant que c'est un indépendant, donc il va mettre beaucoup de temps. Et le Osoda va sortir en juillet 2015, donc forcément début 2016. Donc on se dit en 2015, mais qu'est-ce qui va sortir dans l'animation? Donc on a Souvenir de Mardi, et puis quoi? Donc là je me demande si le fossé n'est pas si énorme entre ce qui est sorti en 2014, où on a vu vraiment ce qui pouvait se faire de meilleur dans l'animation, et en 2015 où on va absolument presque rien voir. Et donc je me demande si en fait on va finalement pas s'orienter vers les séries d'animation, qui elles ont encore, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Vas-y Victor, là tu peux y aller.
Alors après je donne la parole à Nicolas, mais je suis pas tout à fait d'accord. Notamment en France, il y a déjà des films d'animation qui sont...
Mais un autre genre. On parle de Saint Seiya aussi, qui a un style beaucoup plus Final Fantasy, c'est un autre genre. Et ça justement, je suis plutôt en désaveu par rapport à ça.
Il y a des franchises
franchises
qui vont renaître au cinéma, dont Les Chevaliers du Zodiac, éventuellement Dragon Ball avec le...
Il sort en DVD d'ailleurs.
qui sort en DVD. Il y a Hideaki Anno qui poursuit sa série de, d'Evangelion avec, je crois que c'est le quatrième volet qui doit sortir cette année. Au...
Qui est sorti dans environ deux ou trois salles à chacune de ses sorties de ses premiers films.
En France.
En France.
Mais qui marche très bien au Japon, par
oui,
contre.
Oui, mais
reste un phénomène
moi,
de,
je te parle des animations.
On verra, après, ça peut... ça peut ouais, mais... revenir. Donc il y a tous ces aspects où il y a de toute façon un public trentenaire, quarantenaire, qui a grandi avec, avec des mangas du cinéma d'animation et qui est prêt à payer maintenant 10 euros pour emmener ses enfants voir Albator ou Les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball Z. Donc il y a tout ça. Et parallèlement, c'est vrai qu'il peut y avoir des cinéastes alors, plus indépendants qui peuvent venir d'univers effectivement de la publicité, des séries et qui peuvent exister en salle. Ou en DVD, mais de toute façon, ça mène vers une distribution plus voilà. Vers.
Mais pour moi, 2015, c'est une année de transition où on va pas forcément avoir de belles découvertes dans l'animation. Quoi. C'est plus des films qui sont en cours de production et qui vont tourner dans des festivals avant d'arriver en 2016 dans nos salles. Et ce qui sera d'autant plus frustrant que l'année 2014 était vraiment
voilà.
Best-of. Quoi.
J'ai quand même envoyé un message à Gaumont pour leur foutre la pression pour qu'ils sortent The Boy and the Beast. comme Les Enfants Loups, parce que je leur ai fait remarquer que Les Enfants Loups ont un joli succès en sortant seulement un mois après la sortie japonaise. Donc il est sorti en août, je crois, et au Japon il est sorti en juillet. Et donc je leur ai envoyé un message pour leur dire bon, bah si vous voulez encore avoir un succès avec le Soda, enfin, c'est avoir un succès, parce que c'était Orozum avant qui s'occupait de Soda, mais là, si vous voulez avoir du succès, je leur ai dit clairement, voilà, faut sortir au mois d'août, donc vous allez le sortir au mois d'août.
Bah, c'est probable, de toute façon, parce que quand Les Enfants Loups étaient sortis, j'étais à l'avant-première, était à Châtelet, avec l'actrice qui faisait le doublage, mais j'ai oublié son nom, alors qu'elle est super connue.
Megumi Anne,
non, c'est pas elle. Je m'en rappelle plus, ça.
Magnifique.
Et qui est magnifique en plus. Et du coup, je pense que le plan marketing va être similaire en France, en tout cas pour la sortie française.
Bah donc, on a quand même, on espère,
éventuellement, mais ce sera
le seul.
Ce sera le seul, et c'est pas dit que non plus on ait un succès. Voilà, on sait pas encore.
En tout cas, alors il y a un peu cet îlot du cinéma d'animation, effectivement. Donc c'est discuté. On reprendra peut-être un podcast spécial d'ailleurs sur l'animation parce que ça peut être intéressant. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on a passé notre année à dire, entre les festivals, entre les sorties, ça, entre les sorties DVD, que le cinéma asiatique allait très mal, qu'il n'y avait plus rien d'intéressant, et finalement, on se retrouve avec un classement où on a des grands auteurs, dont Bill Selian, Tsai Ming-yang, où on a des jeunes auteurs avec le cinéma kazakh, comme on en parlait. Donc il y a à la fois un renouveau, il y a un cinéma de genre qui est assez présent en France avec Ugly, The Red 2 ou Le Tsuerk. Et donc finalement, est-ce que le cinéma asiatique va si mal que ça? J'ai envie de te poser la question, Sidi, comme tu disais que l'année 2014 te semblait plutôt bonne finalement en termes d'expérience cinématographique.
Enfin, moi de toute manière, je suis rarement sentencieux, j'aime pas trop cette idée du cinéma qui va mal, ça généralise un petit peu trop. Pour moi, il y a toujours quelque chose de réjouissant quelque part, donc pour moi, il n'a jamais été question de la fin de quelque chose. Enfin après, Julien a dit des choses très pertinentes concernant... l'avenir de Ghibli, donc de ce point de vue-là, c'est des questions très pratiques. Mais généralement, pour moi, tant qu'il reste des films qui nous rappellent que la mise en scène, au sens le plus basique et rudimentaire, est possible, il n'y a pas trop de raison de s'alarmer. Moi, Dieu sait que cette année, j'aurais pu faire un top 30 de films, tellement j'ai été bon public. Hein. Donc voilà, moi, je suis toujours très optimiste, et de plus en plus, encore plus que lorsque j'ai commencé à voir beaucoup de films... quand j'ai commencé la critique, donc voilà.
Ouais, sur le cinéma asiatique, même plutôt généraliste, j'ai un avis un petit peu différent, parce que là en fait, dans le top 10, je formulerai une question, c'est-à-dire que si on faisait un top 20, quels seraient les 10 films suivants asiatique.
Non, j'en ai pas vu assez.
Et donc là, justement, on se pose la question, en fait, finalement, pour voir un bon film asiatique, on va voir un bon film asiatique par mois, en gros. Et le reste passe à la trappe.
Sauf les festivals, quoi.
Sauf les festivals.
Ah, donc, festival, il y a aussi beaucoup de mauvais films. Hein.
Oui, il y a beaucoup de mauvais, mais il peut y avoir des superbes surprises.
Et justement, j'ai l'impression qu'il y a le même rythme en fait, de parution de films asiatiques en salle, et le même que les précédentes années, mais qu'il y a quand même moins de bons films, finalement. On voit quand même...
J'ai envie de te demander quels sont les mauvais films asiatiques qui sont sortis en salle, alors.
Coming Home, par exemple, pour le plus récent.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah moi je mettrais Detective D, mais Yannick est pas d'accord. Pour moi The Red 2 est pas non plus. Mais tout ce que t'as dit est vrai, mais ça fait pas pour moi un grand film.
Oui, mais est-ce que tu es conscient que la cette géographie, cinématographique est l'une des plus privilégiées dans le monde, à savoir, c'est-à-dire, enfin, le cinéma asiatique, par rapport à d'autres cinématographies, on a plus de nouvelles de ce cinéma-là que d'autres cinémas, enfin, que, par exemple, le cinéma d'Afrique ou les cinémas des pays du Moyen-Orient, ou c'est, voilà, donc...
Disons que c'est parce qu'on a une certaine affinité dans les réseaux de distribution et de production, qui fait que, en fait, quand tu as un producteur français, il y aura forcément une sortie en salle française, chose que tu n'as pas forcément dans les autres cinématographies où il y a peu de coproductions, mais il y en a moins.
Le cinéma français produit pratiquement l'ensemble du cinéma.
Mais il y a quand même des liens particuliers ou privilégiés avec le cinéma asiatique, sauf le cinéma chinois ou le cinéma d'auteur, où c'est vraiment extrêmement particulier. Et tu vois qu'au niveau du cinéma d'auteur chinois, d'ailleurs, il y a le seul film chinois, c'est Détective Di.
Il y a eu Black Call aussi, voilà. De Yao Yinan, dont on a, enfin, qui est
divisé,
qui est pas dans le top 10, c'est
qui
ça
est
bien.
Top 10, qui est divisé beaucoup, par contre, cité par quelques rédacteurs.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on voit plus de films provenant de cette cinématographie que les films d'Afrique ou des pays.
Ah oui, bien sûr.
Et puis parce qu'il y a aussi l'industrie.
Oui, il y a l'industrie, il y a les moyens derrière.
C'est la base, quoi, c'est important, enfin, faut souligner ça.
La sortie de Timbuktu, qui a eu un, quand même, un beau succès apparemment là, ça le
qui commence très bien.
Bah, à mon avis, va faire encore, va amener beaucoup plus de vision. Parce que déjà, il y a eu quelques films qui sont sortis, d'Africains qui sont sortis ces quelques années. Enfin, je pourrais pas trop citer des titres comme ça, mais.
Et qui ont intéressé.
Si La Pirogue, par exemple. Ou,
Il y a des mauvais films, malheureusement. Mais ouais. Après, c'est un sentiment personnel.
Oui.
Mais.
Timbuktu, c'est un mauvais film ?
Non, La Pirogue.
La Pirogue, c'est très classique, quoi. C'est du. On va pas en parler, mais t'as l'impression que c'est 10 ans de retard. C'est vrai qu'il y a certains films africains qui ont l'impression qu'ils ont un peu 10 ans de retard sur d'autres cinématographies parce que. Je sais pas, il leur manque quelque chose ou ils ont du mal à. Enfin, ça dépend des pays après, toujours pas.
10 ans de retard au niveau artistique, au niveau du développement de la cinématographie.
Au niveau narratif, en fait, la façon de raconter une histoire, j'ai l'impression qu'ils.
Non. Après, je me rappelle que l'année dernière, j'ai pas mal parlé au sujet de Gris-Gris, que je défendais justement parce que ça pouvait ressembler. Je sais que Samir n'aime pas du tout le film.
Moi,
je défendais parce que ce qui ressemblait effectivement à une naïveté excessive de mise en scène pour moi. C'était très propre justement à la vision, enfin je ne suis pas spécialiste de tous les pays africains, mais à la vision africaine de la manière de raconter des histoires de manière très directe, très épurée. Il y a toujours cette espèce de visibilité du squelette narratif et de la structure des scènes qui pour moi fait la force du film, donc de cette cinématographie.
Juste pour revenir là-dessus, ouais. Justement on parlait tout à l'heure de simplicité, le fait de revenir à la simplicité de raconter une histoire. Faut pas que ce soit trop simple non plus, c'est-à-dire faut pas que ce soit vidé de toute substance, trop simpliste, voilà. C'est la différence entre simple et simpliste, et je trouve par un moment, dans les films africains que j'ai vus, je pourrais plus citer quel pays exactement, mais je trouvais ça, il y avait quand même un point commun, que c'était un peu trop simpliste, à certains moments, dans le dispositif de mise en scène.
On parlait aussi, Samir, tu parlais d'économie, effectivement, des structures, une industrie qui existe au Japon, en Chine, en Corée notamment, qui existe sans doute moins dans les cinémas d'Afrique, exactement. Dans les cinémas du Moyen-Orient, exactement. Dans les cinémas sud-américains. Exactement. Et donc c'est sans doute pour ça que plus de films nous arrivent. Mais il y a tout de même un déséquilibre extrêmement important entre la production locale. Le Japon produit 200-250 films par an.
Ah, mais pour un ratio de combien aussi ?
Oui, mais on en a eu 4. 5 en salle cette année. Enfin, c'est-à-dire que c'est quasiment.
Peut-être que vous n'avez pas eu les films. Enfin, voilà, c'est peut-être pas représentatif. Après, les cinéastes que nous connaissons sont des cinéastes qui sont classés auteuristes, même si pour moi ce terme ne veut rien dire, parce que Luc Besson est un auteur par exemple, parce qu'on reconnaît son style, si on ne reconnaît ça pas, donc c'est un auteur. Après, on peut ne pas aimer, moi je n'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des cinéastes qui sont tout de suite comme Sisako, par exemple, par Timbuktu, mais on va revenir plus au cinéma asiatique, pas au cinéma d'Afrique, parce que c'est quand même. Sinon, on va avoir des. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, voilà, il y a certains cinéastes qui sont catalogués, qui sont plus festivaliers, entre parenthèses, et qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Et c'est vrai que lorsque toi, tu me dis qu'il y a 200 à 250 films qui ont été produits et réalisés cette année au Japon, et que nous avons vu, enfin nous, en général, nous avons vu...
En Occident, peut-être un peu plus en DVD, c'est vrai que je parlais en salle, mais c'est vrai qu'il y a...
Ouais, alors on va dire en salle, il y a combien de films en salle ?
Moi je dirais pas plus qu'une dizaine de films japonais qui sont sortis.
On dit 10 films sur 250, après on dit...
Une trentaine en DVD, Yannick.
Et après,
c'est ça, mais c'est le nouveau marché.
Le meilleur film japonais, c'est difficile.
C'est le nouveau marché, le DTV. C'est le nouveau marché utilisé en France, le DTV.
Est-ce qu'on peut me citer le meilleur film japonais de l'année qui ne soit pas un film d'animation ?
Au revoir l'été, qui est un très très beau film. Il est sorti complètement dans l'indifférence générale au mois de décembre dans 10 salles avec deux horaires par jour. Voilà. Donc ouais. Comment un film peut exister comme ça?
C'est possible. Tu attaques un problème.
Et ça reflète
général, c'est un problème général, évidemment.
Et ça reflète absolument pas l'industrie japonaise, hein, oui. Qui ne produit absolument pas ce genre de film localement. Hein.
Oui, et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que localement, les industries, notamment si on parle de cinéma japonais, ils produisent des films qui ne sont pas du tout exportables. C'est-à-dire que ça marche au Japon, ça peut marcher dans quelques pays asiatiques frontaliers, mais finalement, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir ces codes qui sont de toute façon très télévisuels.
Et on l'a bien vu dans le marché de
dramas. Tu peux dire la même chose pour la Corée en fait.
Et c'est la même chose pour la Corée. Et c'est la même chose pour la
Qui marche pas en Corée, les films coréens. C'est pas l'exportation.
Pour les films japonais, tu le vois dans le marché du film à Cannes, on en a vu des deux, Kiki la petite sorcière, hein, c'était assez vite.
Oh, il est mauvais.
On a vu une demi-heure, il est sorti, là, on avait marre. Et par contre, pour les films coréens, je reviens sur le genre du thriller en fait qu'on ne revoit plus en fait, finalement dans les salles. Il est décidé maintenant au marché VOD, on se dit mais. Mais où est ce passé ce genre
où est-ce qu'il est pourtant sont pas super, ah, hein,
moi si moi Acapella sorti cette année c'était plutôt pas mal Acapella
même dans le film de genre
dans le cinéma de genre tu vois oui le thriller en fait qui est une marque de fabrique de la vie coréenne qui dépasse souvent les polars hollywoodiens à une époque en tout cas et maintenant qu'on retrouve pas que en VOD.
Et qui sont pour moi toujours aussi bons.
Et qui sont assez bons. Enfin, ils sont toujours. En fait, moi, pour moi, le problème du thriller coréen, c'est qu'il a toujours été efficace, mais qu'il n'est pas monté de niveau. Il ne s'est pas réinventé, en fait. C'est toujours la même chose. Alors, c'est bien. Et c'est tout.
Mais même comme ça, ça reste au-dessus de la production moyenne américaine.
Oui, donc on se dit, bah, pourquoi finalement il n'y en a quand même pas un ou deux qui arrivent à trouver un distributeur ou quelque chose.
C'est ce qui fait, sans vouloir être dans l'autopromotion, la force d'un site comme Istasia, c'est de. On sait pertinemment que. Il y a certains films qui ne sont pas distribués parce que des gens à la tête d'une certaine boîte de distribution ne sont pas intéressés par ça. Et nous enfin chez Istasia, c'est quoi? C'est nous, on va voir ce qu'il y a ailleurs. C'est ça qui fait la force. Quand tu dis où sont les films, où sont ces thrillers qu'on
ah oui, non, on les voit, mais le but, c'est de les rendre accessibles au public.
Et là, un problème qui est vaste, qui est le problème de la distribution.
C'est
pour ça qu'il y a des sites comme Istasia qui vont gratouiller un peu.
C'est tout le paradoxe de trouver une industrie comme le Japon qui produit plus que 250 films, hein, beaucoup, beaucoup plus.
Non, mais pardon.
Beaucoup, beaucoup plus. Au moins 3 ou 4 fois plus. Comme l'Inde, et que finalement, les films qui sortent, c'est un bon
avec tous les dramas déjà,
avec un bon paquet, toutes les adaptations là, toutes les merdes qui sortent là-bas, je peux te dire qu'il y a un bon paquet. C'est pour ça que le ratio est extrêmement faible. Quoi. Quand tu compares ce qu'il y a là-bas et ce qui sort ici, c'est pas du tout pareil. C'est justement le paradoxe entre ce qui sort ici ne correspond absolument pas à ce qui marche là-bas. Quoi. C'est pour ça que le Takahata a fait un beat exceptionnel là-bas. Je sais pas combien il a fait, mais vraiment horrible. Ce qui a aussi, enterré le clou du cercueil de Ghibli. Et pourtant, ici, il a quand même un succès, en tout cas relatif, par rapport à ses précédentes œuvres.
La France est connue pour abriter des cinéastes qui ne sont pas forcément reconnus dans leur propre pays.
Oui, bien sûr. Mais justement, c'est tout le paradoxe. C'est très bien, mais c'est tout le paradoxe de la mort, finalement, de certains studios ou de réalisateurs qui marchent à l'international, mais qui ne font pas gagner d'argent à leur studio. Mais qui marche pas localement, et donc si ça marche pas localement, on arrête tout, même si à l'extérieur ça marche mieux. C'est qui est triste.
En même temps, il y a aussi une raréfaction, on l'a vu avec deux festivals, donc le festival du film asiatique de Deauville qui s'arrête donc cette année, le festival Paris Cinéma qui présentait notamment il y a 2 ans, il y avait eu un panorama sur le cinéma hongkongais et beaucoup de films asiatiques, donc de moins en moins de festivals dans lesquels on peut voir ces films. Et également de moins en moins de DVD et de DTV qui sortent. Yannick, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton impression sur le marché du DTV cette année asiatique, qui semble être, on voit justement, de raréfaction par rapport aux films qui pouvaient sortir il y a quelques années? Ou pas du tout?
Ouais, je rajouterais juste une question, Yannick, et Victor va répéter sa question. C'est que quand tu regardes le top 10, en fait, tu vois que finalement, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Alors justement, est-ce que ça se ressent aussi dans le marché du DTV, et par rapport à ton ressenti au film que tu as vu, si dans tes top DTV, est-ce que les films autres que le Japon, Corée, Chine, dans le festival de genre ou d'auteur, sont pour toi de moins bonne ou de meilleure qualité que ce triptyque?
Tu me demandes si dans le marché du DTV, les films qui sont pas japonais, chinois ou coréens seraient moins bons, c'est ça?
Non, sont meilleurs, ou enfin, quel est pour toi, d'un point de vue qualitatif ou comparatif, les films émergents, donc là on a cité... Par exemple, tu avais Winter Sleep, tu avais Leçon d'harmonie, The Red 2 pour l'Indonésie, Ugly pour l'Inde, et tu as dû en voir plein d'autres aussi, de pays, on va dire, dits émergents dans le cinéma asiatique, par rapport à justement l'industrie japonaise, l'industrie coréenne, l'industrie chinoise. Est-ce que tu ressens une certaine montée de ces pays ou pas du tout ? Dans le marché du DTV, hein.
Bah dans le marché du DTV, je peux quand même citer un film qui m'a particulièrement marqué cette année, qui est On the Job, donc qui nous vient de Philippines.
Mm-hmm. Encore un autre pays émergent. Hein.
Voilà. Mais sinon, c'est vrai que dans le marché du DTV, on a quand même... c'est toujours pareil, les éditeurs, ils ont pu des masses prendre... prendre de risques, donc il y a quand même énormément de films. Je veux dire, il y a quelques années, dès qu'il y avait un thriller coréen qui débarquait dans le coin, on le sortait en salle. Maintenant, on les voit plutôt arriver en DVD. On a eu cette année chez Wildside le très moyen Monster Boy. Donc,
Très très moyen, c'est clair. Regardez le manga, enfin lisez le manga plutôt.
Et c'est un paradoxe, car des films comme, même, sans parler de leur qualité, comme On the Job ou Monster Boy, on peut se dire que ces films seraient sortis il y a quelques années au cinéma, et que justement la critique et donc les gens en auraient beaucoup plus, parlé. Et ce qui m'a frappé notamment, c'est cette année, il y a beaucoup de films de Junito qui ne sortent pas en salle, mais c'est la première fois qu'un de ces polars qui est assez attendu ne sort pas en salle, qui était Drug War, qui sort uniquement en DVD, et finalement... Aucune critique, à part je crois une double page dans Positif, n'a vraiment parlé du film. Je parle de critiques un peu institutionnelles ou grand public. De même, on a eu des... Alors, ça c'est plus une expérience d'Api Chapung Rassé la Cool, mais Kongotel, qui est directement sorti en vidéo et pas en salle. Mais c'est vrai que finalement, très peu de critiques en ont parlé.